Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
France Inter.
J'entends tout.
C'est côté.
Club.
Bonsoir et go et bienvenue à toutes et à tous, c'est Côté Club, votre rendez-vous quotidien avec le meilleur de la scène française en live. Et ça se passe bien au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Ce soir, plein d'invités rock, Olivier Lorquin et les Orange Joes. Bonsoir à vous quatre.
Bonsoir.
Salut.
C'était presque collégial. Olivier Lorquin qui signe son premier album, La Drôle de Route, rock country, balade. C'est l'ADN du président de la fondation Dina Vierny Musée Mayol que vous êtes. À 75 ans, vous signez un premier album qui se souvient de vos années rock 1980, de vos années rock situationnistes des années 70. À vos côtés, les Howling Joes. C'est leur deuxième album, Half Asleep, Half Awake. Pochette énigmatique composée par une intelligence artificielle, mais rien d'artificiel dans les 11 titres enregistrés tendance live à Londres avec des expérimentations musicales à vérifier en live pour 3 titres ce soir. Côté club, c'est ouvert entre vos oreilles.
Côté club, Laurent Goumard sur France Inter.
Ouverture Zao de Sagazon, elle a tout raflé aux Victoires de la musique, je ne sais pas si vous êtes au courant. Elle chante ses addictions dans Aspiration sur France Inter.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. À c'est sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Ivan Abkarian, Lucas Humbert et Baptiste Léon du trio Howling Joes et Olivier Lorquin sont les invités côté club ce soir. Deuxième album pour les Howling Joes, Half Asleep, Half Awake. Premier album pour Olivier Lorquin. Deux parcours très différents, on va y venir. Est-ce que vous vous connaissiez les uns les autres ?
Non, mais c'est je suis ravi de les rencontrer.
Ouais, ouais, c'est parfait,
pareil,
on a une heure pour faire connaissance. Olivier Lorquin, donc premier album, le titre La Drôle de Route. Vous êtes le président de la fondation Dina Vierny Musée Mayol à Paris, que vous connaissez les garçons ?
Tout à fait.
C'est parfait. A priori donc, loin de la musique, et pourtant, vous avez commencé dans les années 70, 80, avec un groupe, on y reviendra. Aujourd'hui, à 75 ans, vous revenez à vos sources rock. Je vous ai demandé votre titre déclencheur, c'est celui-ci. Gonna hang my sombrero on the limb of a tree coming home. Sweetheart, darling, just my rifle, pony, and me. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Quelle est cette voix, Olivier Lorquin, que l'on écoute ?
On écoute deux voix exceptionnelles, Dean Martin, le roi du croon, et Ricky Nelson. Dans un film, c'est la scène musicale qui provient d'un film qui s'appelle Rio Bravo de Raoul Walsh, qui est sorti en 59. Moi, j'avais 10 ans et on allait beaucoup au cinéma avec les parents. Et on aimait les westerns en version originale. À l'époque, quand un film sortait en version originale, il sortait sur les Champs-Élysées. Et j'ai eu la chance de voir Rio Bravo à l'âge de 10 ans. Et je dois dire, c'est la première claque que j'ai prise en écoutant With My Rifle, My Pony and Me.
C'est-à-dire même la musique à l'intérieur du cinéma, en fait, c'est ça qui vous a marqué.
Oui, ça m'a bouleversé. Et j'écoutais Brassens, j'écoutais Marie-Josée Neuville, qui était la toute première à faire du folk en français.
Elle avait une guitare.
Voilà.
Et les titres, on l'appelait la collégienne de la chanson.
La collégienne de la chanson. Et c'était une chanson sur Johnny Kidd ou quelque chose comme ça. Et ça m'a bouleversé. Donc, pour moi, ça a été la révélation. Et d'ailleurs, le premier 45 tours que j'ai acheté, après, c'était un 45 tours de Ricky Nelson, c'était Lo Marilo.
Ça s'appelle la fidélité. Pour All in Joe's, d'abord un mot sur ce nom. Qui est-ce qui l'a trouvé, les mâchoires hurlantes?
On ne se souvient même plus.
Non.
C'est nous trois, ouais.
C'est nous quand on avait un autre âge. On a commencé le groupe au lycée.
Ouais, vous avez commencé très tôt.
Et donc à l'époque, on s'était dit que c'était un super nom. Ça ressemble un peu à All in Wolf, mais c'est pas All in Wolf. En fait, c'est dur à prononcer en français, mais on l'adore.
Très, je peux vous le garantir. Vous avez vu, je me suis planté.
Mais du coup, on le dit plusieurs fois et les gens le retiennent, donc ça, c'est cool.
Mais au départ, vous aviez un autre nom, non? Mad Mouth.
Vous avez bien fait votre voix.
Bah ouais, on a regardé, oui.
On a fait plein de...
Il y avait quelque chose autour de la bouche, à chaque fois.
Non, c'est Mad Mouth.
C'était la souris.
C'est la deuxième personne qui pense que c'est Mad Mouth.
Bah oui, parce que comme il y avait l'histoire des mâchoires hurlantes, je me suis filé la métaphore. Mais vous aviez quel âge, alors, pour la souris déglinguée?
13 ans.
Ouais,
13 ans.
On a commencé tôt,
On s'est rencontrés, en fait, eux deux se sont rencontrés à la maternelle, à 2 ans. Et ils sont restés copains, et moi je les ai rencontrés au collège, et ils sont venus me voir, tu fais de la batterie, tu veux pas jouer dans un groupe? J'ai fait, vas-y, grave. Puis voilà, on est là.
And the rest is history.
Vous connaissez depuis la maternelle?
Ouais. Bac à sable.
Littéralement, ouais.
Vous avez encore des copains d'enfance de cette époque? Vous n'avez leur qu'un nombre?
Non, moi j'avais pas de copains d'enfance.
Non plus, j'en avais pas.
J'avais des copains d'enfance dans le quartier, mais pas à l'école.
Pas à l'école. Très bien. Alors, le titre déclencheur pour vous, c'est facile, vous avez ça en commun. Alors vraiment, pour tous les trois, les Beatles, c'est le point commun, le titre déclencheur?
Je pense qu'on a beaucoup d'influences différentes, mais les Beatles, c'est un truc qui nous rassemble vachement. Ouais. On s'est tous pris une claque quand on était gamin. On a d'abord écouté l'album One, comme tout le monde, je pense. Enfin, on l'avait en CD qui traînait partout. Et ensuite, on a un peu digué nous-mêmes sur les singles qu'ils avaient, le bleu, le rouge. On a écouté les albums. Enfin, ouais, c'est un truc assez fédérateur pour nous, je pense.
Fédérateur, et pour autant, j'imagine que chacun avait quand même son univers musical. Quel était l'univers pour chacun?
Moi, je viens de la musique métal à la base. J'avais un frère qui en écoutait beaucoup et qui m'a fait, à 8 ans, qui m'a dit « Tiens, écoute ça, ça va te plaire, du Metallica ». Et en fait, je venais plutôt de ça. Et quand on s'est retrouvé musicalement, c'était un peu le point d'encontre, c'était le punk. C'est pour ça.
Ouais, carrément.
Et vous?
Pour moi, les Beatles ont toujours fait partie du paysage. Je pense que ça a toujours tourné dans la maison. Avant même que je m'en rappelle, je pense que j'écoutais des Beatles. Et sinon, beaucoup de blues aussi.
Ah, vous avez ça guitare, en commun avec Olivier Lorquin. Ça s'appelle une programmation. On est aujourd'hui au deuxième album. Le premier, c'était Strange Effect. Il date de 2021. Mais le premier son identifié, on est en 2013, il y a un peu plus de 10 ans. Well, you're the ugliest girl that I've ever seen. But you've got the best body when I made my dream. You're ugly and you're beautiful. Ugly and you're mine. Yeah, I can't stand your face when I'm awake. So I'm sleepwalking.
hoping, baby, to get to you tonight. I'm sleep hoping, baby, to get to you tonight. Yeah, I can stand your face when I'm away.
C'était quoi l'idée en 2013 en fait?
Bah,
parce que là on est dans un autre son
quand même. À fond rockab. On jouait du punk au début, on a commencé un peu avec ça, jouer ensemble. Et on a découvert un mec qui s'appelle Johnny Burnett à peu près à cette époque-là, qui a une sorte d'énergie complètement folle. Et ça nous a fait découvrir un peu cette musique-là, qu'on a voulu jouer, s'approprier. Donc ouais, en gros ça découle vraiment d'abord du punk et ensuite directement dans les années 50, retour en arrière, parce qu'on trouvait que l'énergie était déjà sauvage, déjà assez ouf. Et on a commencé à faire ça, ça s'est enregistré pareil DIY chez un pote qui avait un studio qu'on embrasse fort d'ailleurs, qui s'appelle Jules, qui fait toujours de la musique mortelle. Et on avait enregistré ça sur bande avec trois bouts de ficelle. Voilà quoi, c'est une première expérience en studio aussi, c'est chouette.
Et les premières expériences sur scène, elles datent de quand? Puisque vous êtes tous rencontrés il y a très très longtemps, à la maternelle, au lycée, au collège.
Je crois qu'on a monté le groupe peut-être genre 3 mois avant la fête de la musique, et 3 mois après avoir monté le groupe, on faisait notre premier concert dans un café, et c'était quoi, 2008?
Café Crème 2008.
2008, voilà. Première expérience sur très vite la scène.
Et pour vous, Olivier Lorquin, la première expérience sur scène, ça remonte à quand?
Oh, ça remonte en 80. J'avais signé chez WEA, et vous savez, on m'a envoyé dans la cage au lion, au Gibus. Parce qu'au Gibus, c'était un test, on cassait du groupe. Et ça s'est très, très bien passé. Je suis passé une semaine au Gibus et c'était vraiment une révélation. J'avais jamais fait de scène de ma vie, et c'est comme si dans une vie antérieure, j'avais toujours fait de la scène.
Génial.
J'ai un très beau souvenir du Gibus.
La scène, on va y venir tout de suite, en live ici à France Inter, dans Côté Club. Je vais vous laisser regagner les micros, mais d'abord un mot sur cet album, le titre « Half Asleep, Half Awake », moitié endormi, moitié éveillé. Un mot pour qu'on comprenne l'enjeu de ce titre. Qu'est-ce qu'il raconte? Quelle clé de lecture et d'écoute pour ce deuxième album?
C'est un album qu'on a pensé déjà un petit peu plus onirique, un peu plus piqué, un peu plus parallèle, enfin un peu chelou. Il y a un univers qui s'est dessiné en enregistrant les chansons une par une avec Liam Watson. Et en fait, ça, c'est un bout de chanson qu'on a écrit en studio pour le pont de la chanson, du coup, qui est devenu le titre de la chanson « Half Asleep, Half Awake ». On trouvait que ça englobait pas mal toutes les thématiques qui découlent des chansons de l'album. Donc un truc un petit peu, on sait pas trop si on est dans le rêve, on sait pas trop si on est dans la réalité. Parfois, on se réveille dans un rêve et il y a une sorte de sentiment un petit peu bizarre d'onirisme chelou.
Même l'expression « half asleep, half awake », c'est on s'en sort pas trop. C'est-à-dire que les deux veulent dire exactement la même chose.
Exactement la même chose,
Du coup, on est dans un vortex de signification, et c'est marrant.
Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est que ce thème-là du rêve et des choses de genre, on s'en a rendu compte en fait en enregistrant l'album. C'est-à-dire qu'assez vite, au bout de quelques chansons enregistrées, on s'est dit « tiens, mais c'est marrant, il y a un thème qui colle, qui commence, alors qu'on n'avait pas fait exprès et on s'était pas forcément mis d'accord sur ce thème-là. Donc on s'est dit que c'était important vu qu'il s'était imposé lui-même, de le laisser.
On va partir en live tout de suite. Les deux titres que vous allez enchaîner parlent de quoi? Quels sont les sujets? Pour le premier, par exemple, le premier c'est
Bewitched Me.
Bewitched Me, ouais. C'est un truc plutôt voyance, sorcellerie, un petit peu jeter un sort.
Se faire ensorceler, quoi, ouais. Par quelqu'un.
Vous avez vécu ça?
Ah ouais, plein de fois.
C'est toujours un petit peu lié à des expériences. Non, mais les chansons, on écrit les chansons, c'est toujours lié à une expérience réelle.
Que vous avez vécu.
Donc voilà.
Et le deuxième titre, ça sera
Mirror, Mirror.
Et alors là, quelle est l'histoire?
Miroir, miroir, ça, c'est toujours un truc un peu conte, fable, miroir, on pense à...
Au beau miroir, au mur, qui est la plus belle.
Mais c'est aussi un rapport à l'image qu'on a de soi aujourd'hui.
Et quelle image vous avez de vous-même?
Plus sur le truc général, mais un peu sur le, si on pourrait dire, le narcissisme ambiant qui fait qu'on est obligé de mettre en scène sa vie, de regarder la vie des autres, de voir toujours présenter une image favorable au monde, etc. Enfin,
vous êtes très présent d'ailleurs sur les réseaux sociaux.
On s'amuse un peu avec ça, on essaye. Vu que c'est un peu parfois un fardeau de faire ça, de s'occuper de ces trucs-là, on essaie de rendre ça rigolo, quoi.
Tout de suite, en live pour France Inter, je vous laisse regagner les micros, les instruments. C'est Orin Jones. We'll be right back. L'énergie live des All In Joes en session filmée ce soir en session live pour Côté Club. Deuxième titre, on enchaîne les garçons. Mirror, Mirror. Double titre, Miroir, Miroir. Tout de suite sur France Inter.
Yeah.
Un son parfait pour ouvrir la semaine, même si nous sommes mardi ce soir sur France Inter. Le son des All in Joes qui vont nous rejoindre tout de suite autour de la table. Je rappelle qu'il y a Jivan Apkarian, Lucas Humbert, Baptiste Léon en live pour France Inter. La session est filmée, il faudra regarder ça sur le site de l'émission. Ce sera disponible dans quelques jours. Un mot peut-être, Olivier Lorquin, sur ce que vous venez de voir et d'entendre.
Ah non, ça donne, hein. ils ont une énergie folle et puis c'est formidable.
Prise de son ce soir, Jérôme Ragano et Clément Vuillet. Merci, donc la session sera disponible sur le site de Côté Club. Nouvel album, Half Asleep, Half Awake, enregistré comme le premier à Londres. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas? Pour quel son en fait?
C'est un pèlerinage. Non.
À genoux.
En vrai, on y va parce qu'il y a un studio là-bas qui s'appelle Thorag Studio.
Est-ce que vous connaissez Olivier Lorquin, ce studio?
Non.
Un studio mythique, véritablement. Qu'est-ce qu'il a de particulier?
Bah déjà un producteur qui s'appelle Liam Watson.
Qui a fait le son des White Stripes.
Par exemple, ouais. Le troisième album Elephant, le plus gros quoi.
Des Kaisers ouais. Aussi, qui est un groupe super grasse.
Qui participe à nos influences et qu'on aime beaucoup. Et il a du matériel de fou, notamment pas mal de vieux trucs analogiques des années 60-70.
Sur bande magnétique, vous enregistrez,
c'est ouais, ça? Oui, tout à fait.
C'est quand même dingue. Micro vintage, j'imagine.
Oula, total, ouais.
Ampli vintage.
Tout à fait.
Et pourtant, tout va disparaître. C'est ça.
Ouais. Tout va pas disparaître. Le lieu va disparaître parce qu'il ferme. Enfin, bref, l'immeuble dans lequel le studio ferme. Mais du coup, lui va, je pense, monter un studio itinérant. Enfin, le producteur et son matos et son savoir-faire continuent d'exister, ça c'est sûr. Mais nous, quand on est allé chez lui, c'était pas tellement pour chercher du matos vintage seulement. Mais c'était aussi pour chercher une façon de travailler. Parce que lui, en tant que producteur, nous donne des idées et on voulait travailler aussi sur un matériel qui est vintage parce qu'il y a certaines limitations qu'on est obligé d'avoir à cause du matériel. Genre, par exemple, sur bande, si on veut mettre quelque chose à l'envers, faut prendre la bande, faut la découper, faut la caler, le caler sur le morceau. Et c'est un travail qui prend du temps. Si on le fait sur ordinateur, ça prend 30 secondes, on fait directement l'idée qu'on avait dès le départ. Mais là, en fait, on ouvre un petit peu une porte à l'accident et on s'est laissé aussi composer l'album en studio avec le matériel, avec le son et avec le producteur.
Je lisais aussi que vous vouliez un album qui sonne plus live que le premier, c'est-à-dire que ce que le premier ne permettait pas.
Alors qui sonne, je sais pas, en termes de texture de son, pas forcément, mais par contre en termes de composition, oui, on a plus pensé à la transcription en concert que pour l'album précédent.
Qu'il y ait moins de différence entre le concert et l'album.
En tout cas qu'on se mette des petits biscuits qui permettent déjà sur la version studio d'être transcrit en live de manière gourmande, on va dire.
C'est-à-dire on était là, genre, tiens, vas-y, on rallonge ça, on fait ci, on fait comme ça, ça va être trop bien sur scène. Ce qu'on pensait déjà, sur scène, qu'est-ce que ça va donner? Alors, sans faire un album vraiment live et sans faire un concert enregistré, parce que c'était pas le but, on voulait quand même avoir de la production, quand même des instruments en plus, etc. Mais il y avait toujours l'idée de genre, on va jouer sur scène, il faut que ce soit ce qu'on n'avait pas fait avec le premier album, et là, c'était vraiment, on s'est fait plaisir.
Il y a pas mal de nouveaux instruments aussi, des instruments même étrangers. J'ai pu lire qu'il y avait, par exemple, une sorte de bouzouki grec, des sagates qui sont des petites cymbales utilisées en Égypte, en Turquie. C'est l'idée du réalisateur ou c'est la vôtre?
Non, ça c'est nous.
C'est nous, ouais.
Ah ouais, c'est vous. Et comment vous avez trouvé cette idée-là ? Pour quelle raison vous êtes allé chercher du côté de ces instruments ?
En fait, en 2019, on a fait la musique d'une pièce de théâtre, Electro des Bas-Fonds, qui a beaucoup tourné pendant 2019, 2020, 2021, malgré le Covid. On a réussi un petit peu à jouer.
Vous étiez sur scène avec
eux ? On était sur scène avec eux. En fait, on avait accès à un stock d'instruments qui nous était prêté par Jean-Jacques Lemaître, qui est le musicien du Tas du Soleil, qui nous a prêté des instruments, donc il a une collection absolument extraordinaire. Et là, on a pu essayer, expérimenter avec des nouveaux instruments, et on en a gardé certains pour l'album, en se disant que ce serait chouette d'avoir ces sons-là en plus à rajouter à notre répertoire.
À part ces instruments, justement, qu'est-ce que cet album doit à cette expérience théâtrale, d'après vous ?
Je pense que déjà le fait de jouer avec beaucoup de gens sur scène en même temps, des danseurs, des danseuses, des chanteurs, enfin des comédiens, des comédiennes, ça force un petit peu à avoir l'oreille beaucoup plus portée sur le plateau que sur nous-mêmes. Et puis nous, on a tellement l'habitude de jouer ensemble qu'on s'écoute plus, c'est pas un bon mot, mais on se sent. On sait un peu quand il y en a un qui monte, quand il y en a un, on sait un peu ce que l'autre va faire. Là, on était vraiment obligé d'être concentré sur l'écoute. Et puis il y a aussi la manière de composer qui est vachement plus longue dans le temps. On n'est pas sur une chanson qui doit durer 3-4 minutes, qui passe à la radio sur un disque ou l'on a. On est plus sur un truc qui va durer parfois 10-15 minutes. Donc comment on va étirer les thèmes, quand on va les transposer, parfois les changer d'instrument pour donner une nouvelle texture. C'est un travail qui était un petit peu justement dans les textures déjà, et plus dans le temps, dans un temps plus étiré.
Est-ce que ça va aussi avoir une influence sur la dramaturgie du concert ? C'est-à-dire que là vous avez travaillé avec une troupe de théâtre, avec des danseurs, plein de gens. Donc j'imagine que vous avez penser la forme concert de façon différente. Alors, après une expérience de
tragédie. On vous rassure, il n'y a pas de monologue de tragédie grecque au plein milieu.
Mais... Non, mais j'imagine qu'il y a autre chose.
On va voir ce qu'on peut faire. Après, c'est une question d'argent aussi, bien sûr, ça on le connaît. Mais déjà, le set est... Après, quand on joue sur scène, ça reste rock'n'roll, ça reste très direct. Un peu comme vous avez vu là, quoi. On saute partout.
On a vu ça, ouais. C'est ce qu'on pourra voir sur la vidéo. Ouais.
Ça, on ne l'a pas encore mis en scène, vraiment. On reste au naturel.
Mais c'est vrai que on s'est permis de rallonger certaines choses sur un concert d'une heure, par exemple, de pas forcément faire 2 minutes 30, 2 minutes 30, 2 minutes 30, une chanson après l'autre, de rallonger, de faire des liaisons entre les différents morceaux qui sont longues, où la batterie s'arrête, où il y a de l'orgue, où justement on s'est laissé ces possibilités-là parce que on l'a beaucoup fait avec la pièce de théâtre et maintenant on maîtrise un petit peu ces genres de moments un peu flottants. Et ça permet aussi d'apporter quelque chose que juste de la violence pendant une heure, quoi.
Ouais, et vous parlez aussi entre les titres ou pas?
Pas beaucoup, pour dire bonjour, voilà.
C'est tout, et bonjour Paris, quoi.
Bonjour Paris.
Très bien, parfait. Un mot sur la pochette, très belle, réalisée par une intelligence artificielle. Vous n'aviez pas d'idée ?
Alors, c'est pas vraiment ça, c'est réalisé par nous, avec une intelligence
artificielle. J'imagine, parce qu'il faut bien sûr la nourrir. Ouais. Vous lui avez donné quoi comme idée, comme concept, pour qu'elle produise, je sais pas, un enfant aux yeux bleus, blond, avec, je sais pas, une sorte de furet dans une boule de cristal, je sais pas.
J'ai mis une photo de moi enfant avec mon chat et c'est parti. Non, pas du tout. En fait, on a cherché, on n'avait pas d'idée précise, mais on savait qu'on voulait faire quelque chose avec cet outil. Parce que ça sert le propos de l'album. La conscience, l'inconscient, la maîtrise, mais pas totalement. Half asleep, half awake, on contrôle pas complètement ce qu'on va avoir comme résultat.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, il y a eu, je sais pas, 250 essais, images produites par nous et l'intelligence artificielle avant de trouver quelque chose qui nous convienne. Et là, en l'occurrence, les mots dedans, c'est de la magie noire.
Il faut
apprendre. On
l'a déjà dit, le script, donc peut-être qu'on
on peut
le redire.
Alors, c'est marrant. C'est quoi alors?
C'est une pub années 70 d'un enfant mentaliste qui lit l'avenir dans une boule de glace, dans un cône.
C'est ça que vous avez donné comme ça.
Au bout d'un moment, on a réussi à trouver quelque chose qui nous plaisait. Puis après, évidemment, on l'a modifié parce que Lucas, il est aussi graphiste. Enfin, on essaye de faire un petit peu tout en interne parce qu'on aime ça déjà. Les clips, on essaie de les faire nous-mêmes au maximum. Les images, le son, l'enregistrement, les maquettes. Enfin, donc du coup, c'est Lucas qui a vachement fait la pochette.
L'intelligence artificielle pour la musique, vous l'utilisez ou pas ?
Pas du tout.
Non, non.
Pour quelle raison ?
C'est pas si mal que ça. C'est pas faire.
Parce que là en fait on l'a utilisé parce que c'était nouveau à l'époque, c'était avant ChatGPT quand on l'a fait, c'était vraiment sur DALL-E les premières versions, on trouvait ça un peu rigolo. Et puis surtout la musique, nous on essaie d'avoir une approche à l'inverse où on n'utilise pas d'ordinateur le moins possible, on essaye de retranscrire un petit peu ce qu'on peut jouer en live directement dans les oreilles des gens, donc c'est pas du tout quelque chose qui nous attire pour la musique.
Je voudrais qu'on écoute un extrait de Lost Songs.
Songs I try to write for her, echoes in my mind, words are intertwined. Lost songs will remain incomplete, sweet and bitter, empty gesture. She's still underneath my skin, she's in every song I sing. Oh, why couldn't I say it to her? Goodbye, you know I lost myself.
compose, qui écrit? Est-ce que ça se fait à trois?
Ouais, c'est ça, on essaie de le faire à trois le plus possible. Enfin, en gros, c'est là où on se marre le plus et c'est comme ça qu'on bosse, quoi.
Depuis la maternelle, vous vous supportez encore?
Ouais.
Non.
Il y en a un qui a quand même dit la vérité.
Non, on s'est retrouvés une heure avant, mais après, on se voit pas pendant deux semaines. Non, on se voit tous les jours.
Oui, tous les jours.
On se voit tous les jours.
Bah ouais, là, on s'est pas vu pendant quatre jours parce que Lucas était en vacances, on faisait des trucs, on s'est retrouvés avec Bat hier, on a bu des coups, on était là, m'a manqué. Enfin, c'est un peu.
Toujours en anglais, vous n'avez jamais essayé en français?
Pas encore, à composer pas encore, on a déjà chanté des chansons, des reprises en
des
français,
reprises,
mais pas encore composé, non.
Pour quelle raison?
Je pense que ça vient du fait que la musique qu'on écoute est majoritairement anglophone, on écoute beaucoup de rock'n'roll, de rock, de prog, de psyché, de machin, et en général ce qui nous plaît le plus c'est en anglais, et je pense qu'il y a un rythme et des accents dans la langue anglaise qu'on n'a pas en français, qui est un petit peu plus plate, qui rend la composition un petit peu différente et la manière de s'exprimer aussi différente, la manière d'écrire différente. Je pense que pour l'instant, en tout cas, on est sûr de l'anglais. Après, à l'avenir, on verra bien, quoi. Mais pour l'instant, c'est ça qui nous plaît.
Si vous avez besoin d'un parolier, je suis
voilà,
avec plaisir.
Surtout qu'Olivier Lorquin a été parolier, mais depuis très longtemps. Dans les années 70, vous aviez commencé déjà à écrire des paroles.
Ah, génial.
Pour qui? Même des adaptations.
J'ai commencé grâce à Gilles Thibault. Et Gilles Thibault, je le tenais parce que je voulais absolument qu'il me présente Johnny, il n'en pouvait plus. Et Elvis a eu la mauvaise idée de nous quitter en 76, je crois, ou 77. Lee Hallyday lui a demandé d'adapter le Blue Sweat Shoes que j'avais fait en français pour Lucky Bondo. Et il a dit, écoutez, je connais un gars qui me harcèle depuis des mois, mais ce qu'il a fait est pas mal, et c'est grâce à Gilles Thibault que j'ai pu faire passer mon adaptation du Blue Sweat Shoes à
Johnny.
Non, pas Johnny, à Lucky Blondo.
À Lucky Blondo. Vous voyez qui est Gilles Thibault ou pas?
Gilles Thibault, non, mais Lucky Blondo, je sais.
Gilles Thibault, c'était un type formidable. Vous savez, il a écrit cette chanson de Claude François qui a été reprise par Sinatra, My Way.
My Way, c'est lui qui l'a écrit, ouais.
C'est lui qui a écrit. Il a fait Que je t'aime.
Pour Johnny.
Il a fait Ma gueule.
Ah ouais.
Il a fait Gabriel.
Et ben voilà.
Et bien d'autres titres. C'était un type formidable.
On va repartir en live, les garçons.
Allez.
Alors, enfin. De quoi ça va parler?
Healer, la chanson, elle s'appelle Healer. Et c'est une chanson, veut dire d'amour, c'est un peu une célébration des moments où on est au fond du trou, parfois parce qu'on a trop bu, parfois parce qu'on est trop triste, et d'avoir quelqu'un contre qui se blottir, ça fait du bien. En gros, je parle de ça, la chanson.
La guérisseuse.
Voilà.
Tout de suite, sur France Inter.
Oh,
Les Howlin' Joes en live sur France Inter, c'était toujours les mêmes. Lucas, en plus, avec Alexis Goyer à la cloche, notre Alexis Goyer de côté club. Ils avaient besoin d'être quatre pour ce nouveau titre, à retrouver bien sûr sur le site de l'émission.
Côté club.
Laurent Goumard.
Howlin' Joes et Olivier Lorquin sont les invités côté club ce soir. Olivier Lorquin avec un premier album, La Drôle de Route. Et c'est un commentaire sur votre parcours entre cinéma, rock, publicité et art. Avant d'entrer et de suivre cette drôle de route, quelques mots sur vous. Vous avez 75 ans, vous êtes le président de la fondation Dina Vierny Musée Mayol à Paris. Un mot sur votre mère, Dina Vierny, collectionneuse d'art, galeriste. Elle fut aussi le modèle d'Aristide Mayol, musicienne par ailleurs.
Ah oui, une très grande musicienne et en plus, on passait notre vie à chanter.
Dans toute la famille.
Toute la famille, elle entraînait tout le monde à chanter. Donc on chantait et elle avait une voix d'ange.
La musique était une histoire familiale. J'ai pu lire qu'il y avait un grand-père pianiste, une grand-mère musicienne, il y avait des cantatrices dans la famille. Donc
j'avais
musique...
un grand-père pianiste, une arrière-grand-mère cantatrice, ma mère était musicienne. Et voilà, donc elle a, sans l'encourager, elle m'a dirigé vers la musique.
La musique pour vous, ça commence comment? Car il y a eu d'abord le cinéma en 69.
Oui.
Mais la musique arrive quand alors pour vous?
La musique arrive très tôt. D'abord, jeune, je découvre la musique avec Georges Brassens, avec le folk, et puis surtout, le premier contact qui était un déclic pour moi, c'était les poètes de la Pléiade que ma mère avait mis en musique. Elle mettait des poèmes de Ronsard, de Dubellay et de Rémi Bello, et je dois dire que c'était un déclencheur pour moi.
D'ailleurs, il y a un des titres sur cet album, La Complainte,
de Rémi Bello.
De Rémi Bello. Le rock, c'est véritablement votre ADN musical. Vous avez même réalisé un doc sur Vince Taylor. C'était votre idole à l'époque?
J'aimais beaucoup Vince Taylor et je l'avais découvert très jeune. J'avais acheté un disque de Vince dans lequel il chantait Shaking All Over, qui était une pure merveille.
Grave.
Et j'ai fait sa connaissance, j'ai réalisé un film sur lui en 76.
Vous connaissez les garçons, bien sûr, Vince Taylor?
À fond, ouais. Oui. Trop cool.
Mais vous connaissez certainement Brand New Cadillac.
Ouais, on la reconnaît même avant.
Ouais.
Donc, Flight Rock aussi.
Ouais. Ouais, c'était cool, carrément. Le putain de danseur, la grande classe, quoi. Un showman, ouais.
Qu'est-ce que vous l'avez fait faire dans ce documentaire?
Je l'ai suivi. C'était un petit peu, vous savez, il était un petit peu en perte de vitesse, mais il jouait dans un cabaret à la Contrescarpe. Mais il aurait pu être là où Palais des Sports ou l'Olympia, c'était le même. C'était un ange. Il avait un rêve, il caressait un rêve, Vince. Il avait un brevet de pilote. Il rêvait de piloter le Concorde. Il y avait encore des vols d'essai, il n'était pas encore sur une vol, il ne faisait pas le Paris-New York et le Paris-Washington. Il rêvait de piloter le Concorde et il draguait une jeune femme qui était hôtesse de l'air, dont le père était commandant de bord. Il m'avait dit, tu vois, regarde, je suis sûr qu'en draguant cette femme, grâce à son père, je pourrais piloter le Concorde.
Ça ne lui est pas arrivé. Mais vous en avez fait une chanson, plus ou moins.
Oui, alors un jour, sur le tournage, c'est une obsession chez lui. Et un jour, il me dit, tu sais, Olivier, je vais te dire un truc vachement important. Je crois que je suis né dans un avion en vol, en écoutant du rock'n'roll. Et ça m'a inspiré ce titre, Rock en vol.
Rock en vol, tout de suite que l'on va écouter, extrait de La Drôle de Route, votre premier album, Olivier Lorquin.
Je suis né dans un avion en vol, en écoutant du rock'n'roll. Oui, je suis né dans un avion en vol, en écoutant du rock'n'roll. Chérie, si tu veux que je décolle, donne-moi une dose de rock'n'roll. Les bagarres et la frime, les pompons crocodiles, les bécanes, les frangines. Je suis né dans un avion en vol, en écoutant du rock'n'roll. Oui, je suis né dans un avion en vol, en écoutant du rock'n'roll. Chérie, si tu veux que je m'affole, donne-moi ma dose de rock'n'roll. Les jukebox, les manches disques, le ketchup, les hot dogs, le fly tux. Je suis né dans un avion en vol en écoutant du rock'n'roll. Oui, je suis né dans un avion en vol en écoutant du rock'n'roll. Chérie, si tu veux que je décolle, donne-moi une dose de rock'n'roll.
Rock en vol, extrait de La Drôle de Route, le premier album d'Olivier Lorquin, avec à la guitare Yann Péchin,
ouais,
le guitariste d'Alamachung. Quand est-ce qu'il est arrivé dans ce projet, Olivier Lorquin?
Il est arrivé parce qu'on avait besoin d'un habillage. En fait, on avait besoin d'un habillage de guitare et c'était la bonne idée d'Olivier Kowalski, qui est le producteur de cet album, qui nous l'a présenté, et le courant est passé tout de suite. Et de titre en titre, l'évidence de l'album est née, quoi.
Vous connaissiez Olivier Kowalski, les garçons?
Pas du tout.
Ah ben je vais vous présenter parce que c'est quand même quelque chose. Olivier Kowalski, que vous remerciez d'ailleurs dans cet album, que vous connaissez depuis les années 70, Olivier Kowalski qui co-signe d'ailleurs les titres aussi de cet album, il fut le bassiste de ce groupe. Le titre, c'est Fou, Roi, Pantin. On est en 1971, un titre signé du groupe Comintern. Le nom faisait écho à la Troisième Internationale de l'époque. C'était des groupes politisés après mai 68. Un des groupes fondateurs du Flip. Le Flip, c'était le front de libération et d'intervention pop. Le front de libération de la rock music aussi, en lutter contre la spectacularisation du spectacle. Est-ce que vous faisiez partie de cette mouvance situationniste?
Alors, pas du tout. Non, tout ça est venu par accident parce que Jean-Louis Ranson, qui était le bras droit de Debord... De Guy Debord, voulait mettre du rock dans les manifestations. Après 68, l'extrême gauche et l'extrême droite se foutaient sur la gueule et il y avait des manifestations très saignantes. Donc il voulait animer tout ça avec du rock.
Avec du rock dans les manifestations.
Dans les manifestations. Et il ne trouvait pas le chanteur. Et Jean-Louis, on s'en connaît, avait une amie qui sortait avec mon frère et lui a fait part de cette quête de chanteur. Elle dit, mais écoute, le frère de mon chéri conviendrait tout à fait, c'est comme ça que j'ai fait affaire.
Je lisais aussi que vous aviez enregistré quelque chose au studio Sarava de Pierre Barou.
Oui, parce qu'on a enregistré à Sarava, aux Abbesses.
Et c'est sorti?
Non, ça n'a jamais vu le jour, mais ça m'a donné envie justement d'écrire. Et puis surtout, j'ai fait la connaissance d'Olivier et on ne s'est pas quitté depuis.
Puisqu'il est encore aujourd'hui présent sur cet album.
Voilà.
Je vais repartir un peu plus en arrière, enfin plutôt un peu plus en arrière, mais en amont, en 1980, vous faites partie d'un groupe, La Connexion Marseillaise. Extrait.
Je viens de louper le dernier métro, j'ai pas de blé, prends un taco, un coup de cafard, sous le bambou, un coup de cafard, rien ne va plus ce soir.
On est dans les années 80, c'est vous qui chantez.
Oui, c'était
Olivier
Lorquin. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Moment formidable, c'était l'été 79 et juillet-août, et AC/DC venait de sortir ce disque incroyable, Highway to Hell. Bon Scott, c'est le dernier disque dans lequel chante Bon Scott. Et mes voisins du dessus et du dessous avaient la bonne idée de partir en vacances. Donc j'écoutais ce titre du matin au soir à Donf. C'était formidable. Et puis j'ai fait la connaissance de musiciens marseillais. J'allais voir Vince Taylor en concert, en campagne première, naturellement, il n'est pas venu. Donc je me suis retrouvé à la Coupole et par accident, j'ai rencontré des Marseillais, je sais pas, qui étaient en déshérence à Paris. C'est comme ça que le groupe est né.
La pochette, toutes les pochettes d'ailleurs de ce groupe ont été signées Franck Margerin.
Voilà, été signé Franck Margerin. Donc j'ai signé chez Warner et c'était à l'époque, coucou, on veut ta photo. Et j'ai réussi à imposer Franck qui venait de créer Lucien dans
la bande dessinée, bien sûr. Ouais.
Et c'était un combat, mais on a gagné.
Franck Margerin que l'on retrouve aujourd'hui sur cet album aussi.
Bien sûr.
Avec les grandes complicités. Juste, je voudrais aussi qu'on écoute un titre en dehors de cet album. Peut-être vous allez pouvoir le commenter.
Among the junks in the harbor of Aberdeen, you could think you're living in a dream. But Kowloon is full of mystery, and death is waiting for you in the city of Hong Kong. From Hong Kong with love.
Je vous vois inquiet, je vois que vous n'identifiez pas.
Je donne ma langue au chat.
Ce sont les Charlots.
Ah, les Charlots, mais
pour
oui.
Pour quelle raison, d'après
mais
vous?
Mais oui, vous m'avez fait écouter les Charlots pour Benoît Leroux.
Exactement.
Ah, Benoît Leroux, c'est un type formidable. C'est vraiment une belle rencontre dans ma vie. J'ai rencontré Benoît dans les années 70 et j'ai passé peut-être la plus belle soirée musicale de toute ma vie.
Il écrivait pour les Charlots.
Bob Seger, que je ne connaissais pas, Night Moves. Et moi, je lui ai fait découvrir Willie DeVille, Mick DeVille à l'époque. Je lui ai fait découvrir Cadillac Walk. Et c'est vraiment, c'était une rencontre exceptionnelle. Et il avait écrit donc une chanson, un titre, qui s'appelle « Je vais lui coller un pain ».
Que l'on retrouve sur cet album.
Voilà.
On sort les chaînes, les grosses bagouses, les points américains. On commence à la bière, on continue au vin. Quand l'orchestre attaque un tango, on commence à gueuler.
Je vais lui coller un pain. La voix, c'est vous, Olivier Lorquin. Le texte, donc, c'est donc Benoît Leroux. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je sais que vous avez fait plein de choses dans votre vie, mais entre 1980 et aujourd'hui, pourquoi n'avoir pas enregistré d'autres albums? Qu'est-ce qui s'est passé? La musique, vous l'avez mis de côté ou juste avec des potes, des amis?
Non, j'ai changé de trottoir. Je suis parti dans une autre aventure.
Mais alors, à quel moment la musique est revenue comme le retour du refoulé?
Eh ben là. La musique est revenue quand avec Olivier Kowalski, qui s'occupait du studio d'Avou. On a fait ça pour le plaisir. Et puis, de titre en titre, il y a eu cette rencontre avec Yann Péchin.
Ouais.
Et voilà, donc le plaisir est devenu une évidence et on a envie de faire un album.
De continuer.
De continuer.
Vos enfants font de la musique aussi?
Ils font de la musique aussi, oui, mais...
Comment ils regardent père qui est redevenu le rocker qu'il était?
Ah, ils n'en peuvent plus, hein. Je leur rends la vie impossible depuis des années, mais bon, ça va. Ils me disent, papa, c'est pas mal, mais je crois qu'ils en ont marre.
Il y a des musiciens dans vos familles, des Howlin' Joes?
Ouais, moi, mes deux parents sont musiciens, avaient un groupe ensemble.
Ah ouais?
Ouais.
Un groupe de quoi, de rock? Ah bah oui, j'imagine, non?
Non, très new wave, pas du tout, on n'a pas du tout le même...
Ma culture.
Ouais, très très new wave en français, limite prog, bien barré, avec ma mère est aussi chanteuse lyrique, donc avec les chants lyriques, voilà, ça n'a pas percé.
Du côté de...
Ouais, moi, ils sont pas musiciens, c'est pas un métier pour eux, mais genre, ils jouent un petit peu, mon daron fait des percussions, ils jouent du doudouk.
Ah ouais, quand même.
Et puis, ma mère, elle fait du piano très bien, elle joue du concertina, elle chante, enfin, bon, j'ai toujours eu de la musique chez moi aussi.
Et pour le troisième?
Ouais, mon père, il fait de la musique aussi, jamais en pro, mais il a toujours eu des groupes. D'ailleurs, il a joué avec Pierre Chérèze, je sais pas si tu le connais.
Ah, Pierrot, Pierre Chérèze, j'avais fait une maquette. Pierre Chérèze adorait Elvis. Il était très funk. Et j'étais chez CBS à l'époque et on a adapté un titre d'Elvis. C'était formidable. Quel musicien!
Il est ouf.
Mais t'as donné grand musicien, Pierrot.
Ah ouais.
Et ben voilà, vous êtes fait pour vous rencontrer. On va se quitter avec Walking Alone ou comment prendre en main son destin. C'est le message des Delgrès sur France Inter.
And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone, yeah. lever le matin, mon café en moins. Il fait froid et je me sens si seul. J'ai tout laissé derrière moi, je veux pas revenir sur mes pas. Maintenant faut avancer tout seul. Elle m'avait dit le monde est ton pays. Elle m'avait dit tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit ne te retourne pas. Elle m'avait dit je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Non. And I'm walking alone. Yes I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Des soldats dans la villa, au monde pas qu'à calculer moins. Mon café, 10 affaires moins, tout seul. Allons moins qu'à penser à est-ce-vous aussi ou qu'à vivre ça? Est-ce-vous aussi ou qu'à sentir tout seul? Elle m'avait dit, le monde est ton pays. Elle m'avait dit, tu seras mieux qu'ici. Elle m'avait dit, le temps fait pas pour moi. Elle m'avait dit, je serai près de toi. Mais quand je regarde autour de moi, personne. Oh, and I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas. I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Je marche seul. Que le bruit de mes pas. And I'm walking alone. Yes, I'm walking alone. Yeah. Que le bruit de mes pas.
Club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci Olivier Lorquin, merci à vous.
Merci beaucoup.
Le premier album, c'est La Drôle de Route. Vous êtes sur le deuxième ?
Oui, sur le deuxième.
C'est pas vrai déjà ?
Ouais.
Vous y avez pris goût. Merci à Olin Jones, merci à vous trois.
Merci.
L'album,
merci,
c'est Half Asleep, Half Awake. Je rappelle que les trois lives seront disponibles en vidéo sur le site de l'émission. Vous serez en concert le 14 avril à Amiens, le 19 au Mans pour les 24 heures moto, le 3 mai à Dunkerque, le 4 à Paris au Trabendo, le 14 à Strasbourg, le 29 à Clermont-Ferrand, le 30 à Marseille, le 31 à Châteauroux et puis les festivals pour cet été. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain...
Aujourd'hui, nous vivons un monde quand même fonctionnel, pratique, prédateur. On consomme les choses et même les gens pour arriver quelque part. Tous les moyens sont bons pour arriver à nos fins. La poésie, c'est le contraire.
Il en fera la preuve demain, la poésie d'Arthur Teboul qui sera notre invité avec à ses côtés Thomas de Pourquerie. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenec à la réalisation. La technique ce soir, Jérôme Ragano et Clément Vuillet. Merci les garçons pour la prise de son. Programmation, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rouzic et aux playlists Valentine Chedebois. Côté club, on ferme. Je vous souhaite la bonne soirée. Alors à demain.
Oh, c'était formidable.
Côté plus de solo de guitare et moins de blabla.
Oui.
Non, mais j'ai rien à rajouter.
Club.
Bye, bye.